Session de philosophie sur la contemplation par le Père Marie-Dominique Philippe et le Père Gouthière à Rimont le 22 mai 1998, premier cours.
Je voudrais que ce matin nous terminions rapidement cette approche de Platon pour aborder de manière plus développée la position d'Aristote qui me semble très importante à creuser pour saisir la place de la contemplation par rapport à la personne humaine. Alors déjà, pour terminer cette approche de Platon, il me semble qu'il y a une chose importante à souligner, c'est que Platon, vous voyez, dans cette importance qu'il accorde à la théoria, comme ce qui va commander toute la vie de l'homme, parce qu'il s'agit de redécouvrir, retrouver un fondement perdu. Donc, autrement dit, pour Platon, la démarche qui nous mène à la contemplation, et c'est, je crois, une chose qui est à souligner, à regarder de près, ça va être une purification. Il s'agit de se purifier pour redécouvrir quelque chose que nous avons perdu, qui est comme enseveli sous des choses secondaires. Le rôle de la catharsis, pour Platon, qui est extrêmement importante. Et cette catharsis, cette purification, en quoi consiste-t-elle finalement? C'est la mort qui me le montre le mieux. Et alors c'est pour ça que chez Platon, je crois que le problème de la contemplation est indissociable du problème de l'immortalité de l'âme. Nous avons une âme immortelle, pour Platon, c'est quelque chose qui est au point de départ de la philosophie. Notre âme, par nature, est immortelle et contemplative. Et il s'agit de redécouvrir, de retrouver cela. C'est en raison d'une faute que l'âme a été punie, unie à un corps, et qu'elle est dans la roue des réincarnations, dans un devenir. Il faut retrouver le monde de l'être véritable en se purifiant de tout ce qui nous lie au devenir, qui est le corps. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais hier que chez Platon, il y a tout un aspect où la contemplation est liée à une dimension religieuse. Purification, vous voyez, Platon, dans le Phédon, a cette phrase très forte, il dit « Le pur n'appartient qu'à celui qui est pur. » Or, si Dieu existe, il est pur esprit. Rien de lui ne le lie à la matière. Vous voyez, on voit ici, vous voyez, la racine du manichéisme, c'est sûr. Tout ce qui est matière, tout ce qui est corps, est mauvais. Il faut le rejeter pour se purifier, et c'est pour ça que Platon a cette phrase fameuse dans le Phédon, qui est très célèbre, où il fait dire à Socrate cette chose. Le Phédon, c'est un dialogue très, très connu de Platon, où Platon le met en scène, c'est Socrate qui vient de prendre le poison pour mourir, et qui est en train de mourir. Et il fait un discours, oui, avant de mourir. Alors c'est le testament de Socrate, et c'est le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme. Et il y a cette phrase célèbre de Platon dans le Phédon, « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » On serait donc bien en peine, ce serait donc bien ridicule de s'attrister de mourir au moment où on parvient enfin à ce qu'on a cherché toute sa vie, dit Platon. Et c'est très très significatif. Je crois que la mort joue un rôle extrêmement important dans la philosophie de Platon. Puisque pour lui, l'union de l'âme et du corps est quelque chose qui est contre nature. Notre âme est unie à un corps, c'est contraire à sa nature profonde. Et c'est pour ça que je dis que ça repose sur un mythe, vous voyez. Au fond, Platon considère le corps parce qu'il peut être source de fatigue, parce qu'il est source de passion, parce qu'il est source de distraction. Le corps, pour lui, n'est qu'un poids. Donc, vous voyez, pour Platon, il s'agit de se purifier, c'est-à-dire pour lui, de rejeter le conditionnement. Vous voyez, j'espère que vous avez remarqué, hier, il y a aussi une affirmation que le père Philippe vous a dite, que j'ai trouvée aussi importante. À un moment, il a dit, il s'agit pour le philosophe de rappeler le problème de la finalité. Il a dit, alors pour certains, cela consiste à rejeter l'efficience. Il ne s'agit pas de ça, oui. Découvrir la finalité, ce n'est pas refuser l'efficacité. Ce n'est pas refuser le conditionnement, mais c'est de le situer dans la lumière de la finalité. Pour Platon, le conditionnement est une entrave. Le conditionnement fondamental, c'est le corps. Il faut donc le rejeter pour retrouver ce pourquoi nous sommes faits. Donc vous voyez, ça je crois que c'est vraiment très important pour saisir ce que c'est que la contemplation pour Platon. C'est retrouver comme un idéal, un état que nous avons perdu. Alors, oui, en ce sens, Platon assume, hein, d'une certaine manière, et reprend et développe, hein, les intuitions de surtout deux grands philosophes présocratiques que je ne fais que mentionner, parce qu'après je voudrais aborder Aristote. Mais vous voyez, c'est comme les sources. Alors, ce sont deux philosophes qu'on oppose constamment, alors qu'en fait, il y a un point commun. Parménide, d'une part, Héraclite, d'autre part. Donc, Parménide et Héraclite, c'est à peu près un VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, Parménide, c'est à Élée. Élée, c'est la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud. C'est toute l'école pythagoricienne. Parménide est dans le prolongement de cette école, l'école d'Élée, Parménide d'Élée. Et puis Héraclite, c'est Éphèse, donc l'Asie mineure. Et les deux extrêmes, hein, géographiques. C'est très intéressant, oui, de voir ça. Et le 5e siècle athénien, hein, les choses se concentrent à Athènes. Hein, c'est, beaucoup ont insisté là-dessus, hein, que toutes les diverses écoles philosophiques de tout le bassin méditerranéen sont ramenées à Athènes grâce à la puissance maritime d'Athènes. C'était le lieu où il fallait aller, quoi. Hein, tous les sophistes sont venus à Athènes pour enseigner, parce que c'était le lieu central. Et, alors, Jacqueline de Romilly, notamment, insiste beaucoup là-dessus, hein, pour montrer l'influence qu'a eu le pouvoir politique d'Athènes pour permettre que les écoles philosophiques se concentrent, se retrouvent et donnent naissance à ces trois grands philosophes, Socrate, Platon, Aristote, hein, au cœur du 5e siècle, du 4e siècle athénien. Avant, c'est des écoles dispersées. Alors, Héraclite, voyons, dit généralement, c'est philosophie du devenir. Et puis Parménide, au contraire, philosophie de l'être. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose de commun à ces deux philosophies. Parménide dit, il faut quitter les apparences du monde physique. Le monde du devenir, pour Parménide, le devenir est non-être. Il faut quitter le devenir. Les hommes qui restent dans le devenir sont des hommes de l'opinion. Parménide dit, les hommes qui sont dans le devenir sont des girouettes, sont des hommes à double tête. Ils ont des opinions successives, une chose, une autre. Ils s'adaptent aux circonstances, le côté un peu caméléon, vous voyez. Alors Parménide dit, on ne peut être dans la sagesse que si on quitte ça pour contempler l'être immuable. Alors, l'être, pour lui, c'est le divin. Il dit ceci, « Il ne reste comme seule affirmation pour chercher la vérité que celle-ci, il est. Et il est impossible qu'il ne soit pas. Il est inengendré, impérissable, etc. » Donc, un regard sur le monde divin. Alors, pour lui, c'est cela. L'être nous fait découvrir Aletheia, la vérité. Le monde de l'être, c'est le monde de la vérité. C'est bien évident, vous voyez, que Platon a subi l'influence de Parménide. Le devenir n'existe pas vraiment. Je vous ai dit hier, hein, le devenir, les apparences sensibles, c'est mensonger, c'est ce qui nous trouble, c'est ce qui nous distrait. Il faut rejeter tout cela pour contempler le monde de l'être. Alors, et puis Héraclite, on dit généralement, le monde, hein, au contraire, c'est le philosophe du devenir, de l'expérience, hein, pantarei, hein, tout court, tout change, tout coule, tout se développe, hein, pantarei. Mais Parménide, mais Héraclite souligne qu'au-delà du devenir, le sage est celui qui saisit le logos des choses. C'est Héraclite qui dit le sage est séparé, hein, segregatus, il est séparé, séparé du monde des opinions. Vous voyez, donc, au-delà du devenir, il faut saisir le logos des choses, l'intelligibilité profonde des choses, l'ordre du monde, l'ordre de l'univers. Et c'est intéressant de voir Héraclite à Éphèse, hein, l'Asie mineure. Il est tributaire, il est l'héritier de tous les, ce qu'on appelle les physiciens. Vous voyez, Thalès, Anaximandre, Anaximène, qui sont des philosophes du devenir. Mais Héraclite souligne que le sage, c'est celui qui saisit le logos des choses, hein, l'intelligibilité profonde des choses. Alors, vous voyez, je crois qu'il y a ça, hein, chez Platon, il y a cet héritage qui est présent. Assumer de Parménide ce fait de quitter le monde du devenir pour regarder ce qui est véritablement, et alors saisir la vérité est liée à l'être, ce qui est vrai, c'est ce qui est, ce qui change est une apparence. Et puis Héraclite, hein, la sagesse consiste à saisir l'ordre des choses, l'intelligibilité profonde des choses, on ne peut pas se contenter de l'opinion, de la doxa. Héraclite oppose sagesse et doxa. Les hommes, hein, dit Héraclite, la plupart des hommes demeurent dans l'opinion, dans la doxa. Le sage est séparé de tous, et lui, il saisit le logos. Vous voyez ce que j'avais dit hier, hein, la sagesse est toujours liée à la connaissance de la vérité. On va y revenir avec Aristote. On ne peut pas chercher la sagesse sans chercher la vérité, sans vouloir dépasser l'opinion. Vous voyez, je ne vais pas plus loin sur Platon, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein. C'est tout à fait fragmentaire. J'aurais bien aimé vous lire quelques extraits du Banquet. Oui, quel est le rôle de l'amour chez Platon pour la contemplation? C'est extrêmement important. Et puis le rapport entre contemplation et justice, hein, contemplation et activité politique. Mais je l'ai quand même évoqué, donc je n'y reviens pas plus longtemps. Alors, vous voyez, ça c'est à retenir. Ce que j'aimerais que vous reteniez de Platon, c'est essentiellement ça. Pour lui, la contemplation, c'est d'abord du côté de la connaissance, c'est ce qui permet d'ordonner toutes les questions, tous les problèmes, et c'est surtout redécouvrir un idéal que nous avons perdu. Ça, je crois que c'est très important. Donc la mort joue un rôle central dans la philosophie de Platon. Alors, si j'aborde le problème d'Aristote, je crois que ça va être dans une toute autre perspective, et là, il va falloir changer tout à fait de registre, hein, bien qu'il y ait des points communs entre Platon et Aristote. Vous voyez, Aristote, je vous ai dit hier, hein, a été à l'école de Platon durant 20 ans. Je donne les dates d'Aristote pour vous le situer. Aristote, c'est 384-322, avant Jésus-Christ, bien sûr. Mais donc, il n'a pas vécu très longtemps, hein, une soixantaine d'années. Il est mort d'une maladie d'estomac. Alors, Aristote, va regarder la contemplation sous des points de vue très différents. Je vous ai dit hier, si vous vous rappelez, j'avais commencé par là. Déjà chez Platon, le mot de théoria, on le voit dans l'allégorie de la caverne, est lié à la lumière. Il faut quitter l'ombre pour regarder la lumière. Il faut quitter l'apparence pour saisir la vérité. Il faut détourner son regard de l'apparence pour le fixer sur le monde divin. Bien, chez Aristote, je crois que c'est très intéressant à creuser, le problème de la théoria, il est aussi lié au point de départ à l'aspect de la vision, mais dans un tout autre sens. Mais chez Platon, c'est ça qui me semble intéressant, il y a une opposition, hein, si vous avez compris ce que je vous ai dit hier, si Platon met un dualisme entre l'âme et le corps, Platon oppose donc le regard de l'expérience, ce qu'implique la sensation, l'expérience pour Platon ne peut être liée qu'à l'apparence. Tandis que l'âme a un regard intérieur. Oui, mais Platon met un dualisme entre les deux. Il faut quitter le regard de l'extériorité pour entrer dans un regard intérieur. La contemplation est un regard. Aristote va se servir du langage de la vision pour faire comprendre ce que c'est que la sagesse, mais dans un sens tout à fait différent. Alors je vous lis d'abord un texte qui est au tout début de la métaphysique et qui me semble éclairant pour bien saisir la différence de perspective. Donc c'est Métaphysique, grand alpha, chapitre 1er. C'est le tout début de la métaphysique, hein. C'est comme ça qu'il commence cet ouvrage. Tous les hommes désirent par nature connaître. Et déjà, Platon ne dirait pas ça. Le philosophe désire par nature connaître, pas tous les hommes. Parce que pour Platon, nous sommes de races différentes, hein, quant à la philosophie. Il y a des gens qui sont nés pour être philosophes, et d'autres non, pour Platon. Et on a un naturel philosophique. Pour Aristote, la philosophie, c'est pour tout homme. Et donc déjà, c'est tout à fait différent. Tous les hommes désirent par nature connaître. L'amour des sensations en est le signe. En effet, celles-ci, en dehors de leur utilité, sont aimées pour elles-mêmes, et plus que les autres, celles qui nous viennent par les yeux. Car ce n'est pas seulement pour agir, mais aussi quand nous sommes sur le point de ne pas agir, que nous choisissons de voir à l'encontre, pour ainsi dire, de tout le reste. La cause en est que parmi les sensations, la vue nous fait au plus haut point connaître et montre des différences plus nombreuses. Oui, c'est très extraordinaire, hein, comme premier texte. Hein. L'amour de la connaissance, et Aristote souligne, premier aspect, hein, que dès qu'on va parler de sagesse, la sagesse va être liée à un appétit naturel de connaître la vérité. Alors ça, c'est déjà un aspect que j'aimerais qu'on essaye de saisir. On ne peut pas entrer dans la recherche de la sagesse, donc de la contemplation, sans saisir que c'est quelque chose qui va épanouir en nous un appétit naturel extrêmement fondamental. Et il y a une exigence naturelle, fondamentale, dans le cœur de tout homme, de connaître la vérité. On dit, connaître la vérité, c'est ce qui épanouit, c'est ce qui actue en nous un appétit naturel extrêmement fondamental dans notre intelligence. Et donc pour Aristote, dès qu'on parle de sagesse et qu'on parle d'appétit naturel, on va donc parler de finalité, et donc d'un épanouissement. Et comme c'est intéressant, la perspective est tout autre que celle de Platon. Platon disait tout de suite, purification, quitter quelque chose. Aristote, accomplir un appétit. Ce n'est pas une nostalgie d'une chose perdue qui exige de moi que je me libère d'une chose qui m'entrave. C'est que je découvre ce pourquoi mon intelligence est faite. Et donc, vous voyez, c'est un point que je trouve très important à creuser. Je crois que c'est très difficile de saisir ce que c'est que la contemplation philosophique et son importance pour la vie humaine si déjà on ne redécouvre pas l'appétit naturel de vérité de notre intelligence. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre où est-ce que ça s'enracine chez l'homme. Alors, qu'est-ce qu'Aristote donne comme signe ? L'amour des sensations en est le signe. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous montre qu'on aime connaître la vérité ? Un signe de cela, l'amour des sensations. Ah oui, là, Platon aurait entendu ça, il se serait retourné dans sa tombe. C'est peut-être ce qu'il a fait, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il pensait qu'il était une réincarnation. Vous voyez, je ne sais pas où est sa tombe. Bon. Elle est multiple. Oui. Ah oui, c'est très curieux, oui, de donner comme signe de l'appétit naturel de la vérité l'amour des sensations. Pour Platon, la sensation ne peut que nous distraire parce qu'elle nous fixe sur l'apparence. L'expérience est donc éloignée de la sagesse. Platon le dit textuellement dans le Phédon. Il dit qu'on ne peut découvrir la sagesse, la contemplation, que si on quitte complètement la sensation. Bien sûr, à la fin de sa vie, il essaiera de corriger ça avec le Timée. Mais dans les dialogues de la maturité, il dit ça textuellement. Il dit qu'il faut quitter complètement l'expérience sensible pour entrer dans un raisonnement purement intellectuel. Pour Aristote, au contraire, le signe de l'amour de la vérité, c'est l'amour de la sensation. Pourquoi ? La sensation, c'est une connaissance. Et pourquoi est-ce qu'il prend la vision ? Parce que la vision étant le sens le plus libre de la matière, je vais vous montrer pourquoi, elle me donne le plus le sens de la gratuité de la connaissance. J'aime voir pour voir. Et vous voyez, donc, c'est pour ça, tout de suite, distinction entre l'utilité et la gratuité. Vous voyez, la sagesse va être liée à la connaissance de la vérité. La sagesse est une connaissance qui va être une connaissance de la vérité pour la vérité. Connaître pour connaître. De la même façon que j'aime voir pour voir. Oui, c'est ce qu'il souligne. Hein. Car celles-ci, les sensations, en dehors de leur utilité, sont aimées pour elles-mêmes. Oui, je me sers constamment de mes sensations du point de vue utilitaire. Vous voyez, par exemple, j'écris sur un papier, il vaut mieux que j'écrive droit. Donc, je regarde ce que j'écris, autrement dit. J'essaye. Oui, je me sers de l'audition pour écouter un cours. C'est de l'ordre de l'utile, en l'occurrence. Vous voyez, vous êtes pas. J'espère que vous ne vous contentez pas d'écouter ce discours charmant dans les intonations de la voix. Non. Voix agressive, voix paisible, voix. Tout d'un coup, je me mets à crier pour vous réveiller. Bon. Non, normalement, vous écoutez, vous essayez de comprendre la signification de ce que je dis. Donc, vous servez de votre oui, mais pour entendre un cours qui s'adresse à votre intelligence. Oui, c'est de l'ordre de l'utile. Et si vous n'entendez pas très bien, ou vous avez une langue différente, on vous met avec un casque sur les oreilles au fond. C'est de l'ordre de l'utile. Mais je découvre qu'au-delà de ça, au-delà de la manière dont je me sers de mes sensations pour me conduire dans le monde physique, pour entrer dans une connaissance, etc., il y a un amour de la sensation pour elle-même. Vous voyez, au-delà de l'utilité, la gratuité d'une connaissance sensible. Et quand je parle de gratuité, c'est encore tout de suite lié au problème de la finalité. Et on va voir, que je vous parlais cet après-midi de la contemplation chez Aristote, la manière dont il parle de la contemplation, il dira « La contemplation, c'est le bonheur ultime de l'homme, car elle se suffit à elle-même. Elle n'est pas de l'ordre de l'utilité. Elle n'est pas une connaissance ordonnée à autre chose. » Et le signe de l'amour de la connaissance pour la connaissance, dans la sensation, c'est que j'aime voir pour voir. Alors, pourquoi est-ce qu'il prend la vision ? Car ce n'est pas seulement... Alors, les sensations de leur utilité sont aimées pour elles-mêmes, et plus que les autres, celles qui nous viennent par les yeux. Car ce n'est pas seulement pour agir, mais aussi quand nous sommes sur le point de ne pas agir, que nous choisissons de voir à l'encontre, pour ainsi dire, de tout le reste. Et parmi toutes les sensations, la sensation qui me fait saisir le plus cet aspect de la gratuité, c'est la vision. Pourquoi ? Parce que c'est la sensation la plus libre de la matière. Et le toucher implique un contact. Le toucher implique, c'est pour ça que le toucher est tout de suite lié à l'affectivité. Parce que dès qu'il y a le toucher, mon corps est engagé. Ah, vous allez dire, la vision aussi. Oui, mais la vision, c'est le sens du lointain. Il y a une intentionnalité dans la vision qui est très particulière. Et il y a une espèce de... on verra ça dans tout l'art. Si vous regardez l'art grec, c'est très impressionnant. L'importance du regard dans la statuaire grecque. C'est bien la statuaire primitive, notamment les orants de Delphes. On voit ces deux statues extraordinaires. Ces hommes fixés avec un regard fixe, qui fixe. Et puis l'emblème de la sagesse pour les Grecs, c'est la chouette. Parce que c'est le regard qui fixe. Le sens du regard qui me montre, pour Aristote, le premier analogué, la première manière d'exprimer analogiquement ce que c'est que la contemplation. Contempler, c'est regarder. Pourquoi ? Parce que dans le regard, j'ai l'expérience de quelque chose qui est gratuit. Et c'est vrai, vous voyez. La vision engage beaucoup moins notre affectivité que l'ouïe, que le toucher. L'ouïe, c'est le sens de la voix. Et la voix, il y a une dimension affective. Je vous parlais tout à l'heure d'une voix agressive, au contraire d'une voix douce, etc. C'est pas la même chose. Le regard, c'est beaucoup plus objectif. C'est le sens de la forme, de la détermination. Qu'est-ce que c'est ? Et alors là, évidemment, il y a tout un regard philosophique sur les différentes sensations. Je me sers de la vision principalement pour saisir ce qu'est la réalité. Tandis que l'ouïe, c'est lié beaucoup plus... C'est le discours sur une chose, et l'ouïe a une dimension beaucoup plus affective. Elle est liée à l'origine d'une chose aussi. Et donc, vous voyez, quand vous entendez un bruit, d'où vient ce bruit qu'on entend là ? Il y a une scie qui tourne. Qui est-ce qui marche là tout de suite ? Qu'est-ce qui fait marcher cette scie ? Ou qu'est-ce qui moue son café ? D'où ça vient ? C'est-à-dire que la vision, c'est tout de suite, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est pour ça qu'Aristote souligne, la cause en est que parmi les sensations, la vue nous fait au plus haut point connaître et nous montre des différences plus nombreuses. C'est le sens de la détermination pour Aristote. Donc la vision, la sensation, la vision, sens de la détermination, c'est-à-dire de la forme, du qu'est-ce que c'est. Et regardez des expériences toutes simples, ce qui arrive quand on est en communauté. Vous êtes dans un couloir, vous êtes sur un palier très passant. Donc vous avez bénéficié du passage de tous vos frères qui circulent dans le couloir sur le palier. Et quand vous les connaissez au bout d'un certain temps, vous finissez par les reconnaître par leur démarche. Ah, je suis sûr que c'est un tel, il n'y a que lui qui marche comme ça, c'est un éléphant. Un éléphant à côté, c'est une libellule, alors allons voir. Vous ouvrez la porte, ah oui, c'est bien toi, je me trompe pas, oui. Louis, de qui ça vient ? La vision, qui c'est ? C'est très intéressant. Et quelqu'un qui n'a pas la vision, il va saisir le qu'est-ce que c'est par d'autres sensations. Vous voyez, mais vous êtes beaucoup moins précis. Vous pouvez vous tromper dans le qu'est-ce que c'est par uniquement l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens de l'origine. Parce qu'un bruit, ça vient d'un choc. Vous voyez, il y a un choc. C'est le contact d'un corps sur un autre corps. L'origine d'un bruit, c'est un choc. La vision, c'est le sens du qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas lié à l'origine, c'est autre chose. La vision, c'est un sens silencieux. Ah oui, si on poussait, si on continuait, on verrait dans la sensation, le sens de la vision, qui est le premier point qui va nous faire saisir ce que c'est que la contemplation. La contemplation, c'est un regard. Il faudrait développer ici, du point de vue de l'art, le rôle des arts visuels, qui vont développer en nous un sens contemplatif. Oui, et par excellence, l'art de la peinture. La peinture, c'est ce qui éduque en nous le sens de la contemplation. Voir, pour voir. Comme dit Rouault, notre art est un art de silence. La musique, c'est le rythme. C'est le devenir. C'est la vie. C'est l'intériorité de la vie. C'est pas du tout pareil. Et alors pourquoi dira-t-on, hein, j'y reviendrai au terme, pourquoi dira-t-on que la contemplation, c'est un regard? Quand je dis cela, j'emploie un langage analogique. Parmi toutes mes sensations, le sens de la vision me fait découvrir le plus la gratuité de la connaissance pour elle-même, parce que c'est le sens de ce qu'est la réalité, et le sens de la différence. Donc, et premier aspect que je souligne, et j'aimerais, voyez, faire remarquer, ça me semble important avec Aristote, au lieu d'opposer vie sensible, apparence, qualité sensible et intériorité de l'intelligence, montre au contraire un point de contact. Il dira tout le temps, il fera tout le temps des analogies. Il dira, de même que la lumière physique est ce qui rend visible en acte les couleurs, de même l'intelligence, c'est comme la lumière. Mais c'est très intéressant. Aristote se sert toujours analogiquement de quelque chose de sensible pour faire comprendre quelque chose qui est d'ordre spirituel. L'intelligence, c'est comme la lumière, dira-t-il. Elle illumine. Ah oui, au contraire, hein, donc, au contraire, Platon les sépare, oppose. Hein, Aristote se sert du langage des sensations pour nous faire comprendre quelque chose de l'intelligence et de la sagesse. Donc, premier aspect, hein, introductif. Deuxième aspect qui me semble, alors là, beaucoup plus important à développer, c'est tout de suite de voir chez Aristote une approche très originale qui est de nous faire comprendre que la contemplation, la théoria, elle va être une activité de l'intelligence. Je dis bien une activité. La contemplation, ce n'est pas un état pour Aristote, c'est un acte. Alors que pour Platon, c'est un état. Il faut retrouver un état naturel que nous avons perdu. Pour Platon, nous sommes naturellement contemplatifs. Pour Aristote, c'est un acte ultime que nous poursuivons et que nous vivons toujours de manière imparfaite. Nous ne possédons pas la contemplation. Pour Platon, nous la possédons, mais nous l'avons perdue. Il faut donc la retrouver. Et c'est mythique, ça. Parce que, il y en a un seul qui possède vraiment la contemplation, c'est Dieu. Dieu est contemplation. Aristote dira « noesis, noeseos hein, », pensée de la pensée. Dieu est esprit. Nous découvrons la contemplation comme l'activité ultime de l'intelligence. Alors, pour le préciser, il y a un premier point qui est très important à saisir, c'est de voir que cette contemplation, elle va être l'acte qui va, je dirais, nous permettre d'une part d'acquérir, et d'autre part qui va finaliser ce qu'on appelle l'habitus de sagesse, la sophia. Alors vous voyez, là, il y a un petit développement à faire qui est très important dans la philosophie d'Aristote. Notre intelligence, c'est en nous une capacité naturelle. Mais elle peut se développer dans différentes directions et acquérir différentes qualités. Des qualités dans des orientations différentes. Ce qu'Aristote appelle une exis, qu'on traduit en latin par habitus. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça signifie dans la philosophie d'Aristote. Exis, habitus. Vous voyez, les deux mots viennent d'un verbe. Leur racine, c'est un verbe. Exis, ça vient de ekein. Habitus, ça vient de habere. C'est le même mot en grec et en latin qui veut dire avoir. C'est donc une qualité acquise, une qualité qu'on possède, qu'on acquiert. Pour Aristote, la sagesse n'est pas quelque chose de naturel à l'homme, elle s'acquiert et elle développe par là en lui quelque chose qui est le plus naturel. Mais je ne possède pas par nature la contemplation. La contemplation, c'est un acte de l'intelligence qui exige que j'acquière une qualité qui est la sagesse. Une vertu de l'intelligence, une qualité acquise. Donc on y reviendra, ce sera tout à l'heure, c'est important à creuser. Comment s'acquiert la sagesse? Pour Aristote, la sagesse philosophique est une sagesse acquise. Pour Platon, nous la possédons naturellement si nous sommes avec un naturel philosophe. Certains hommes naissent doués de contemplation. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un habitus? Alors, première chose à bien distinguer, un habitus, c'est une qualité acquise qui vient perfectionner une capacité, une puissance que nous avons, mais lui permettre d'acquérir, d'atteindre sa finalité. Donc l'habitus n'est pas une méthode. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert de l'extérieur. Il n'y a pas de méthode de contemplation. C'est une qualité qui s'acquiert de l'intérieur et qui perfectionne toujours plus profondément ce pourquoi mon intelligence est faite dans sa propre finalité. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a différents habitus pour Aristote. Il y a plusieurs qualités de l'intelligence. Les deux qualités les plus fondamentales, et je crois qu'il faut les mentionner, parce que il y a quelque chose à bien saisir pour voir le caractère propre de la sagesse, ou si il y en a plusieurs autres qu'il faut bien noter, le rôle de l'art, la prudence, la science, et puis la sagesse. Je ne mentionne pas ici l'habitus des principes, je ne vais pas trop compliquer. Il y a plusieurs habitus intellectuels. Notre intelligence, autrement dit pour Aristote, peut se développer dans différentes directions. Et elle acquiert par là différentes qualités. L'art, la prudence, la science, la sagesse. La sagesse, c'est la qualité ultime de l'intelligence. L'art et la prudence viennent perfectionner l'intelligence pratique. Alors vous voyez, je souligne ça, je commence par ça, parce que c'est important de le noter. Pour Aristote, la sagesse n'est pas la prudence, la sagesse n'est pas l'art, la sagesse n'est pas la science, mais elle a quelque chose de ces autres qualités de l'intelligence. Elle a quelque chose de l'art, elle a quelque chose de la prudence, elle a quelque chose de la science. Et c'est très nuancé, c'est pas très commode à saisir. Premièrement, la sagesse n'est pas la prudence, elle n'est pas l'art. Alors je vais vous lire deux textes qui me semblent importants à bien voir. La sagesse, donc d'abord c'est dans un texte de la Métaphysique, un livre Grand Alpha, chapitre 2. La sagesse n'est pas une connaissance réalisatrice. Cela est évident à partir de ceux qui ont philosophé les premiers. C'est par l'étonnement que les hommes, aujourd'hui comme au point de départ, commencent à philosopher. Or, celui qui pose les difficultés et s'étonne, voit qu'il ne sait pas. Ainsi, puisqu'ils ont philosophé pour fuir l'ignorance, il est manifeste qu'ils cherchaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pas pour quelque chose d'utile. Et donc, la sagesse n'est pas une connaissance réalisatrice, elle n'est pas un art. L'art, ça consiste à réaliser une œuvre. L'artiste réalise une œuvre. C'est de l'ordre de l'intelligence pratique. Pour Aristote, l'art, c'est un habitus de l'intelligence. Un artiste, pour Aristote, c'est quelqu'un qui a acquis une qualité de son intelligence, de l'intelligence pratique. Et Aristote souligne que le propre de l'artiste, c'est qu'il voit ce qui est à faire. Ah, je trouve ça extraordinaire. Une intelligence dans le faire, et l'acte de faire quelque chose, de réaliser une œuvre. Et c'est pour ça qu'Aristote souligne que ce qui est tout à fait caractéristique de l'homme, que l'art est tout à fait caractéristique de l'homme, parce que c'est cette alliance entre l'intelligence et la main. Je fais une œuvre. Et dans le faire, qu'est-ce qui commande, qu'est-ce qui ordonne la réalisation? C'est mon intelligence d'artiste. Et Aristote souligne que quelqu'un qui n'est pas vraiment artiste, il est peut-être habile, mais il ne voit pas ce qui est à faire. Oui, c'est très intéressant, c'est d'abord du côté d'un jugement. L'artiste voit ce qui est à faire. Donc, intelligence pratique. Soit dans l'ordre utile, vous voyez, un architecte vient vous voir, il y a un couvent à transformer, il vient vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je vois ce qui est à faire, je vois ce que je vous propose. Il vient vous faire un garage. Il a des idées quelquefois saugrenues. Hein. Il voit ce qui est à faire. Vous pouvez dire, écoute, c'est, votre vision est un peu spéciale. Bon, enfin bon, réfléchissons. Et ça, c'est intéressant du côté du faire, c'est dans l'ordre pratique. L'art est pratique. C'est la réalisation d'une œuvre. La prudence, c'est dans l'ordre de l'orientation pratique de notre vie. L'homme prudent, c'est celui qui sait comment orienter sa vie dans le sens de ce pourquoi elle est faite. Alors vous voyez qu'on va voir qu'il y a un lien entre prudence et sagesse, hein, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous voyez, première distinction, quand on parle de la sagesse, on parle d'une connaissance qui est une connaissance pour connaître. Elle a une gratuité dans l'ordre de la connaissance. Elle n'est pas dans l'ordre du faire. Contempler, ce n'est pas réaliser une œuvre. Je souligne ça parce que je crois que c'est très important, c'est une chose que saint Thomas reprendra et qui est très forte au point de vue théologique, vous voyez, et qui aujourd'hui a besoin d'être rappelée, il me semble. Oui, pour saint Thomas, l'homme est plus à l'image de Dieu en contemplant Dieu qu'en étant créateur comme Dieu. Elle dit, l'homme est plus proche de Dieu en contemplant Dieu qu'en étant artiste comme Dieu est créateur. C'est plus lointain. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est dans une vision extrêmement pratique des choses, et très souvent on dira, oui, hein, l'homme est comme Dieu, il est créateur comme Dieu. Vous voyez, Nietzsche est très tenté par ça. Hein. Alors on dit que c'est l'art qui est la chose la plus ultime de la vie humaine, ce qui n'est pas vrai. Je ne peux pas finaliser ma vie par une œuvre. Pourquoi ? L'œuvre est moins que moi. L'œuvre est inférieure à l'homme. Même si c'est une œuvre extraordinaire. Il y a quelque chose qui sera lié à la sagesse, parce que l'œuvre d'art va évoquer quelque chose d'un absolu de l'homme. Mais je ne peux pas finaliser ma vie par une œuvre. Parce que l'œuvre n'existe que comme le fruit de mon travail. Elle est un résultat. Elle n'est pas une fin capable d'orienter toute ma vie. C'est pour ça qu'un artiste qui n'est qu'artiste, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas jusqu'au bout. L'art est une fécondité qui présuppose une intériorité qui est au-delà de l'art, d'une certaine façon. Je crois que ça, c'est très important. Hein. Il y a des liens entre l'art et la sagesse. Mais l'art, comme tel, n'est pas sagesse. Parce que l'homme ne peut pas être finalisé par une œuvre qui est le fruit de son travail. C'est un résultat. Mais l'œuvre d'art n'est pas une fin parfaite. Une finalité, une fin, c'est un bien absolu capable d'orienter toute ma vie parce qu'il attire toutes mes capacités. Vous voyez, donc, l'art, c'est l'ordre de la réalisation. La sagesse, donc la philosophie qui s'achète dans la sagesse, n'est pas une activité artistique. Oui, c'est pareil, je souligne que c'est très important aujourd'hui de le dire. Parce que beaucoup de philosophes vous diront que leur philosophie, c'est comme un art. Ils construisent un système. Et ils ont une vision de la philosophie qui est celle d'un art. Par exemple, chez Descartes, c'est très clair. Pour Descartes, l'activité philosophique, c'est comme une activité artistique. Donc, chose à retenir. Donc, si la sagesse est un habitus de l'intelligence qui est quelque chose d'ultime, elle n'est pas, dit Aristote, une connaissance réalisatrice. Alors, qu'est-ce qui le montre pour lui ? C'est que la sagesse, qu'est-ce qui permet de montrer que la sagesse est au-delà d'une connaissance réalisatrice ? C'est la place de l'étonnement. Et donc, la place de l'interrogation. L'interrogation manifeste l'appétit naturel de l'intelligence. Ah oui, là, on touche un point que je voudrais que vous notiez au passage, et qui me semble est intéressant parce que c'est le point de contact entre l'art et la sagesse. L'interrogation ne peut procéder que d'un étonnement, donc d'une admiration. Or ça, c'est une chose que les théologiens victoriens reprendront au XIIe siècle. Dans toute contemplation, il y a toujours une admiration. On ne peut contempler que ce qu'on admire. Je ne peux pas contempler une chose que je n'admire pas. Oui, on retrouve l'aspect du regard. Alors ça, c'est le point de contact avec l'art, parce que l'art procède toujours d'un étonnement. L'art procède toujours d'une admiration. L'artiste, dans le monde d'aujourd'hui, a quelque chose qui dispose à la sagesse en tant qu'il rend à l'homme la capacité d'admirer. C'est pour ça que c'est tellement grave que vous avez des œuvres d'art qui sont nihilistes et qui n'aident pas l'homme à admirer. Au contraire, qui l'enfoncent dans son néant. Il y a un art du désespoir aujourd'hui qui est terrible dans la culture d'aujourd'hui. Parce que ça ne peut qu'appesantir l'homme dans le sens de son conditionnement. Pour moi, l'art véritable, c'est un art qui éveille l'homme au sens de sa finalité. Et comment le fait-il ? Par l'admiration. C'est pour ça que dans toute œuvre d'art, oui, quand le Paris vous a évoqué hier, il vous a comparé la cathédrale d'Évry et puis Sénanque. C'est intéressant. Vous avez dit, où est-ce que j'admire le plus ? Qu'est-ce qui est une espèce de proclamation du conditionnement de l'homme ? Et qu'est-ce qui, au contraire, montre la grandeur de l'homme qui se dépasse ? Il y a quelque chose d'autre. Il y a un appel à, autre chose, à un absolu. L'art ne touche quelque chose de la sagesse qu'en tant qu'il éveille dans le cœur de l'homme un sens du dépassement de son conditionnement habituel. L'art n'est pas un art qui décrit uniquement la vie quotidienne. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'artistes qui vous diront que c'est uniquement montrer ce que l'homme vit habituellement. Et plus on va loin dans le banal et le conditionnement, vous voyez, un accord à linge avec deux pinces à linge au milieu d'une pièce, vous voyez, plus c'est artistique, bah, pas du tout. L'art est quelque chose de spirituel, ce que note très bien Kandinsky. Kandinsky dit que la forme artistique procède d'un absolu spirituel. Et que s'il n'y a pas ça dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment l'art. Oui, je trois que c'est important de le noter. Hein, parce que je vous ai dit, il faut distinguer l'art et la sagesse, mais il y a un point de contact. L'art, par le sens qu'il me donne de l'admiration, éveille en moi le sens de la gratuité du regard. Oui, une œuvre d'art, ce n'est pas de l'ordre de l'utile. Je n'ai pas un tableau dans ma maison pour faire bien que le papier peint. Ou le canapé. Puis la télévision à côté. Non. On vit avec une œuvre d'art parce qu'elle a quelque chose à nous dire qui est un mystère, qui est un secret. Elle nous invite à une intériorité. Elle nous apprend à regarder. Elle nous apprend à écouter. Elle nous apprend une connaissance qui n'est plus de l'ordre uniquement de l'utilitaire. Vous voyez, donc c'est le point de contact. Dans le faire lui-même, qui est de l'ordre de l'utile, il y a l'émergence d'une connaissance gratuite par l'art. C'est le point de vue de l'étonnement, de l'interrogation, de l'admiration. L'admiration, c'est un état affectif qui suscite en nous l'interrogation, la recherche. C'est pour ça que normalement, une véritable œuvre d'art nous éveille. Elle nous éveille. Ça nous aide à vivre. Au contraire, une œuvre d'art qui nous appesantit, qui nous étouffe, hein, qui nous met dans l'angoisse, c'est quelque chose qui peut être terrible. Vous savez bien que c'est, il y a tout un pouvoir de l'art là-dessus. Hein. Notamment, par exemple, de l'architecture. Hein. On peut très très bien organiser la vie des hommes par l'architecture et par l'urbanisme, de telle sorte que les hommes ne soient plus que dans un conditionnement absolu. Ça a été une des grandes tactiques de certains régimes totalitaires. Vous savez bien. Mettre les gens le plus loin possible de leur lieu de travail, pour qu'ils ne soient que dans les transports et que ça leur évite de penser. Ça existe. Ça a existé. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement intéressant. Hein. L'art façonne un milieu. Il peut éveiller. Il dispose à la sagesse. Premier aspect. Deuxième aspect, j'y reviendrai dans la deuxième heure, c'est comment distinguer la sagesse et la prudence. Et là, c'est un point alors beaucoup plus délicat et très original à Aristote. Pour Aristote, il est le premier à vraiment distinguer sagesse et prudence. Chez Platon, c'est le même terme. Chez Aristote, on voit apparaître deux termes différents, deux réalités différentes, bien distinctes. La prudence d'une part, la prudence, phronesis, et puis la sagesse, sophia. Vous voyez, pourquoi distingue-t-on ces deux connaissances ? Et pourtant, on dira, la sagesse va transformer la prudence, et la prudence me donne le sens de l'importance de la sagesse. Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Comment les distinguer ? Et on dira, d'une certaine manière, la prudence, c'est comme ça qu'Aristote dit tant en temps, il dira, elle est une sagesse pratique. Ah, pourquoi dit-on ça ? Comment distingue-t-on les deux ? Il y a beaucoup de textes, donc je ne vais pas tout lire, mais je vous mettrai en lumière quelques aspects, hein, et on essaiera de saisir ça. Puis ensuite, on verra comment Aristote distingue sagesse et science, ce qui est aussi extrêmement important aujourd'hui. Puis cet après-midi, on verra l'acte de la sagesse, c'est la contemplation. Et pourquoi est-ce qu'elle est le bonheur de l'homme ?
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu.